Le journal Jean-Paul Pitié.
Bonsoir, les voitures hybrides rechargeables, arnaque ou non? Une étude mandatée par le canton du Valais avance que ce type de véhicule pollue plus que ce qu'annoncent les fabricants. Dans le canton de Neuchâtel, la profession conteste la méthode et les résultats du rapport. Mise en bouche d'un dossier qui va animer le Grand Conseil neuchâtelois, la santé bucco-dentaire et la taxe sur les boissons sucrées. Les députés se pencheront une nouvelle fois sur un contre-projet à l'initiative populaire pour une assurance de soins dentaires. La commission santé a élaboré deux moutures de loi qui ne requièrent qu'une majorité simple. Deux skieurs suisses sur le podium à Wengen. Marco Odermatt s'est classé deuxième de la descente du Lauberhorn aujourd'hui, juste devant Beat Feuz. La course a été remportée par le Norvégien Alexander Kilde. Le week-end s'annonce globalement ensoleillé malgré quelques bancs de brouillard le matin en plaine. Il fera plutôt froid dans le bas alors que la douceur sera de mise sur les hauteurs, surtout demain. Il ne serait pas aussi vert qu'il le prétend. Les véhicules hybrides rechargeables sont sous le feu des critiques depuis l'apparition d'une étude d'impact living mandatée par le canton du Valais et relayée par la RTS. Le Conseil d'État valaisan a déjà réagi en annonçant la fin des subventions pour ce type de voiture qui polluerait bien plus qu'annoncé. Toutefois, la crédibilité de cette étude est remise en cause par la profession qui avance que le véhicule n'est pas à blâmer, mais l'utilisation qui en est faite. On fait le point avec vous, Yann Esler, avec tout d'abord cette question. Qu'est-ce qu'une voiture hybride rechargeable ?
Eh bien Jean-Paul, vous avez déjà vu circuler depuis quelques années des voitures hybrides qui possèdent un petit moteur électrique qui s'auto-alimente via le moteur thermique. Eh bien, cette fameuse voiture hybride rechargeable possède une batterie plus importante. Celle-ci peut être rechargée directement par une source électrique externe et son autonomie varie entre 80 et 50 km lors des mois d'hiver. Une fois que la batterie est épuisée, le moteur thermique s'active pour mouvoir le véhicule. Et si cette batterie peut aussi se recharger grâce aux phases de freinage et d'accélération, il faut obligatoirement la brancher à une source externe pour obtenir une charge complète. Petit problème, si on ne la recharge pas, cette batterie, et qu'on continue à rouler seulement sur le moteur thermique, avec le poids à vide de la batterie et la motorisation souvent moins importante, on consomme plus d'essence. Selon certains membres de la profession, la voiture hybride rechargeable s'adresse avant tout aux conducteurs qui se déplacent sur de courtes distances. On écoute Gaël Lanteman, propriétaire du garage du même nom à Cortaillo.
Je conseillerais l'hybride pour des gens qui font des petits trajets par jour et puis ceux qui ont une possibilité de recharger le véhicule soit à leur domicile, soit à leur travail, permettant de rouler le maximum possible en électrique et puis de ne pas avoir besoin d'une deuxième voiture pour faire des plus longs trajets. Puis cette utilisation-là, qui nous permet d'avoir les batteries totalement rechargées quand on part le matin ou quand on part du travail, permet de réduire vraiment sa consommation d'essence pour la mobilité.
L'étude qui avance que ce type de véhicule n'est pas aussi écologique qu'annoncé a été réalisée en Valais avec des conditions de montagne. Quid alors du canton neuchâtelien ?
Alors oui, la question reste, est-ce que la voiture hybride rechargeable serait également peu adaptée à la topographie de l'arc jurassien ? On écoute à nouveau Gaël Lanteman.
Au-delà du fait de dire qu'un canton est fait ou pas fait pour de l'hybride, ça va au-delà de ça. Et c'est là où je regrette que l'étude n'ait pas été présentée dans ce sens-là. C'est vraiment l'utilisation personnelle qui va avoir une influence sur l'hybride ou non. Et le fait d'être dans un canton montagneux, certes, si on habite en haut et qu'on commence le matin et qu'on charge à la maison et qu'on commence par descendre, par exemple, là où la voiture pourrait recharger ses batteries, à ce moment-là, on va perdre en efficacité. Et cette perte d'efficacité est aussi mentionnée dans l'étude. Et donc ça dépend. Si on commence à monter le matin et qu'on redescend le soir avec des batteries vides, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant.
On a donc appris que le canton du Valais a déjà décidé de supprimer les aides pour les véhicules hybrides rechargeables à la prise. Yann, qu'est-ce qu'il en est du canton de Neuchâtel ?
Alors du côté de Neuchâtel, où le parc a presque doublé en 2021 avec 4082 véhicules en service, donc ces hybrides rechargeables, il n'y a pas de subvention directe. Selon le service cantonal des automobiles, les voitures de tourisme sont taxées selon leurs émissions de CO2, c'est-à-dire pour les hybrides, souvent au minimum de 250 francs, à savoir que le total des voitures de tourisme du canton de Neuchâtel est à peu près à 97 000.
Et le canton est plutôt mesuré avec les résultats de l'étude d'impact living.
Alors oui, tout comme les garagistes, le SCAN, via son directeur Philippe Burry, émet des réserves sur certaines conclusions de cette étude. Selon le chef de service, le 100% électrique serait mieux, mais il considère que l'hybride rechargeable bien utilisé est déjà un pas très important vers une réduction des émissions de CO2 et non pas une arnaque. Le SCAN ajoute encore que la législation neuchâteloise va obliger les entreprises à mettre à disposition des bornes de recharge. Les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables auront donc la possibilité pour ceux qui habitent à moins de 50 km du travail de faire tout leur trajet professionnel en mode électrique.
Merci Yann pour votre dossier à retrouver sur rtn.ch. Les députés neuchâtelois vont replonger dans le dossier de la santé bucco-dentaire de leurs concitoyens et du meilleur moyen de financer un programme visant à l'améliorer. Le Grand Conseil traitera le sujet lors de sa session de janvier. La commission santé a arrêté ses propositions concernant le contre-projet à l'initiative pour une assurance de soins dentaires. Les précisions de Claire Viget.
Pour mémoire, en réponse à une initiative populaire demandant la création par le canton d'une assurance de soins dentaires financée par une ponction salariale, le Conseil d'État avait présenté au printemps dernier, juste avant les élections cantonales, un contre-projet. Il envisageait de prélever une taxe sur les boissons sucrées pour financer un programme de prévention, une proposition qui n'avait trouvé grâce ni aux yeux de la majorité des députés, ni aux yeux des initiants. Le tout était alors reparti sur le bureau de la Commission parlementaire Santé. Celle-ci a poursuivi sa réflexion sur l'élaboration d'un contre-projet et a décidé de le scinder en deux volets. Le premier porte sur la modification de la loi sur la santé et le second sur la modification de la loi sur la police du commerce. Dans les deux cas, le vote ne requerra que la majorité simple du Grand Conseil. Il s'agissait pour la Commission de trouver une alternative ayant une chance d'être acceptée par les députés, ce qui limiterait le risque d'acceptation de l'initiative, un texte qui entraînerait un surplus de charges budgétaire considérable, selon le rapport de la Commission. Le vote final des commissaires a été très serré, 6 voix contre 5 pour les deux projets de modification de loi, ce qui laisse augurer d'une bataille difficile au sein de l'hémicycle.
À noter encore que le Grand Conseil devra se prononcer sur deux postulats, des textes qui demandent un état des lieux sur l'accès aux soins dentaires de base dans le canton. Claude Dubois est de retour. Le conseil communal PLR a repris le travail mercredi au sein de l'exécutif du Locle. Les autorités de la maire commune l'annoncent ce matin dans un communiqué. Atteint dans sa santé, Claude Dubois était absent depuis le mois de juillet. Il reprend à temps partiel. Ses collègues du conseil communal conservent certains services. Où est-ce que j'en suis dans ma carrière professionnelle ? Voilà la question à laquelle permet de répondre Via Mia. Après une phase pilote, ce programme de la Confédération est désormais lancé dans toute la Suisse, y compris dans le canton de Neuchâtel, depuis le début de l'année. Cette offre gratuite s'adresse aux adultes de 40 ans et plus qui ne touchent pas de prestations sociales et qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle et leurs perspectives. Elle fait partie des mesures mises en place par le Conseil fédéral pour encourager le potentiel de main-d'œuvre indigène. Cyril Régam est conseiller en orientation et responsable du projet à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle. Il nous détaille la marche à suivre pour les personnes intéressées par Via Mia.
Avant le premier entretien, en fait, il y a un questionnaire de ressources de carrière qui est adressé au candidat ou à la candidate. Et le premier entretien va se concentrer sur cet état des lieux, justement. Le premier entretien, ça va être de faire un petit peu le diagnostic de la situation, un check-up professionnel un petit peu, finalement, sur le contexte, la motivation, les ressources de la personne, les compétences, etc. Donc ça va être prendre du temps pour analyser la situation telle qu'elle est. Et puis après, dans un deuxième temps, éventuellement, analyser le gap entre la situation qu'on observe et puis la situation qui est souhaitée par la personne. En fonction de cet espace, de ce gap, on va proposer des mesures personnalisées pour permettre à la personne d'avancer finalement au niveau de sa carrière, au niveau de son évolution professionnelle.
Et sur rtn.ch, vous trouverez davantage de détails ainsi qu'un lien pour s'inscrire à Via Mia. C'est un premier pas vers la construction de télescopes géants assemblés directement dans l'espace par des robots. À Neuchâtel, le Centre d'électronique et de microtechnique, le CSM, participe à la première plateforme robotique autonome. L'idée, c'est à terme de pouvoir envoyer dans l'espace des engins en pièces détachées et de les assembler sur place. C'est une première depuis le déferlement du variant Omicron du coronavirus. Alain Berset a rencontré aujourd'hui les ministres cantonaux de la Santé. Le conseiller fédéral a déclaré que le temps est à la prudence. De son côté, la vice-présidente de la conférence des directeurs de la Santé, Rebecca Ruiz, a affirmé que les cantons se préparaient à gérer beaucoup d'absentéisme et une augmentation des hospitalisations. À Berne, les explications de notre correspondant parlementaire, Serge Jubin.
Comme le Conseil fédéral, les ministres cantonaux de la Santé peinent à lire la gravité de la situation de cette cinquième vague du virus Omicron, ils cachent difficilement leur embarras face aux semaines à venir. On vit une phase compliquée et difficile à cerner, avoue Rebecca Ruiz. L'incertitude concerne d'abord l'état actuel de la vague, avec de nouveau plus de 30 000 infections ces 24 dernières heures. Le pic ne semble pas atteint, mais en même temps, contrairement au modèle de la Task Force, le nombre de cas ne double pas tous les 8 jours. D'autres sources d'inquiétude, s'il semble acquis que les soins intensifs des hôpitaux ne seront pas débordés, il pourrait en aller autrement des hospitalisations dans les lits ordinaires de soins aigus. Est-ce qu'il y aura une forte augmentation ces 2, 3, 4 prochaines semaines? Et l'absentéisme dû aux infections complique la donne. Alors, dit Rebecca Ruiz, il faut se préparer avec beaucoup de flexibilité. Et à l'inverse d'insister, ce n'est pas parce qu'on a réduit la durée des quarantaines et des isolements qu'il faut se dire qu'on peut faire n'importe quoi. Sans préjuger du résultat de la consultation qui court jusqu'à lundi, tout indique que les cantons soutiendront le Conseil fédéral qui veut prolonger les mesures restrictives actuelles jusqu'au 31 mars, avec possibilité de les lever avant si la situation s'améliore. Une touche d'optimisme tout de même dans le discours. Alain Berset maintient qu'on amorce le début de la fin de la pandémie. Rebecca Ruiz ajoute qu'elle veut croire que les hôpitaux vont tenir le coup d'ici là.
Du côté de la Commission de la Santé publique du National, on estime que le télétravail et la 2G ou 2G+, devraient être maintenus, mais seulement jusqu'à fin février. Selon cette commission, il sera nécessaire de tirer un bilan et d'évaluer quelles restrictions sont encore pertinentes le mois prochain déjà.
RTN, il est 18h11.
Sport. Les skieurs suisses ont encore brillé à Wengen à l'occasion de la première descente dans la station bernoise. Marco Odermatt et Beat Feuds ont pris la deuxième et troisième place. Les deux Helvètes n'ont été battus que par le Norvégien Alexander Kilde. Pour Marco Odermatt, deuxième à 19 centièmes du vainqueur, le podium du jour est au-delà de ses espérances. Il se paie le luxe de terminer devant Beat Feuds, à qui il rend toutefois hommage.
C'était une magnifique expérience pour une première descente sur le Lauberhorn. Mes attentes n'étaient pas si élevées et je ne pensais pas finir sur le podium aujourd'hui, encore moins devant Beat Feuds. D'ailleurs, je ne peux que lui dire merci, il m'aide beaucoup. Je n'aurais pas pu progresser aussi vite en descente s'il n'avait pas été là pour me donner des conseils. Je pense qu'il va prendre sa revanche demain.
Battu par plus jeune que lui, Beat Feuds n'en veut à personne. La preuve, il a chaleureusement félicité Kilde et Odermatt dans l'air d'arrivée. Le Bernois a d'ailleurs pu apprécier les performances de ses concurrents depuis le fauteuil du leader provisoire, vu qu'il s'était lancé avec le dossard numéro 3, une stratégie qui n'a pas complètement payé. Beat Feuds.
Ce n'était en tout cas pas une erreur. Il y a plusieurs passages où il me semble que j'étais le plus rapide, donc ça conforte mon choix de dossard. À l'arrivée, c'est un nouveau podium qui me fait très plaisir. Cela ne va pas de soi de réussir à terminer sur la boîte, encore moins avec cette descente raccourcie où l'on sait que la liste des favoris se rallonge. C'est donc une vraie réussite de voir que je peux en faire partie et que j'arrive tout de même à me placer devant.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Hugo da Custodia. Privés de victoire, les Suisses ont tout de même réalisé un excellent résultat lors de cette première descente de Wengen. Tous les skieurs helvétiques qui étaient au départ ont marqué des points à l'image de Carlo Janka, 11e pour l'avant-dernière course de sa carrière. Une deuxième descente est prévue demain à 12h30 sur la piste du Lauberhorn. On reste sur les lattes avec une nouvelle édition pour Chasseron-But. Annulée en 2020 puis en 2021, l'événement du Val de Travers aura bel et bien lieu cette année. La 29e édition de la descente Chasseron-But et le 10e trophée du Chasseron se tiendront le dimanche 13 février. Selon le communiqué de presse publié cet après-midi, les adeptes de ski alpinisme auront droit à des nouveautés sur le parcours du trophée du Chasseron. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au 12 février. En fin de la neige, on passe à la glace avec Yann Moulinier dans le top 10 à Wittenberg. Cet après-midi en Allemagne, le pilote de la Chaux-de-Fonds a terminé 10e de la Coupe d'Europe de bobsleigh à 2. Accompagné du Jurassien Quentin Juillard, le duo a bouclé ses deux manches à 81 centimes des vainqueurs du jour. Merci de votre écoute. Très belle soirée.